Gloire à Dieu, nous continuons notre série Bérien l'explorateur. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste, un livre puissant, tellement réel, qui nous montre que Dieu connaît ce qu'il se passe sur terre, il connaît les cœurs humains, il connaît les situations de vie des humains. Voilà, ce livre nous le montre clairement. Bien sûr, ça nous montre quelque chose de très important. Tout est vanité. En dehors de Dieu, tout est vanité. C'est ce que ce livre nous montre aujourd'hui encore. C'est ça le sous-thème. Prendre Dieu au sérieux, car en dehors de Dieu, tout est vanité. Donc c'est pourquoi il faut vraiment se tourner vers Dieu et le prendre au sérieux. Et nous allons peut-être faire le chapitre 5 et 6. Donc, on va voir comment le Saint-Esprit va nous conduire. Donc, nous commençons par le chapitre 5.
Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu.
Parce que la parole, c'est quelque chose d'important. La parole engage les humains. La parole montre qui sont les humains. Et la parole, avec la parole, on peut dire des choses qui nous entraînent à la mort. Dernièrement, j'en parlais avec certains bien-aimés pour dire que, quelle que soit la religion, la culture, l'idéologie, pour que ça dure, il faut une doctrine, il faut une parole. Ces idéologies-là que l'on trouve qui durent ont toujours un livre, ont toujours des paroles qui scellent ces idéologies-là. Bien aimé, un féticheur, un marabout, un magicien peut faire des exploits pendant qu'il est en vie. C'est oublié quand il meurt parce que ce n'était pas soutenu par une idéologie. Il va faire des grimaces, il va faire peur pendant qu'il est en exercice, mais après, ça passe. Mais quand quelque chose dure, souvent, il y a une parole qui soutient cette chose-là. La parole, c'est quelque chose de très, très important. Et là, Dieu nous appelle à être sérieux dans ce que nous disons. Et il y a comme une forme d'exemple qui nous est donné concernant les vœux, les gens qui font des promesses, les gens qui jurent en disant « Moi, je ferai ceci à Dieu, voilà ce que je ferai. » Voilà. Et nous avons l'exemple de Pierre qui a dit « Seigneur, les autres peuvent t'abandonner, moi, je serai toujours avec toi. » Nous avons vu comment ça s'est terminé. Nous devons prendre Dieu au sérieux dans ce que nous disons, réfléchir avant de parler et surtout, être humble dans notre fonctionnement. Nous risquons de dire des choses qui tourneront contre nous dans la précipitation, dans la volonté de marquer les esprits, dans la volonté de paraître fort, dans la volonté de convaincre les autres. Nous risquons de dire des choses que nous allons regretter après, dans la volonté aussi de nous défendre. Tu veux te défendre, tu dis des choses, après ça devient le piège. En fait, ça devient la force de tes adversaires, parce que tu as déjà parlé. Mais tu as parlé dans la précipitation, voulant te défendre. Mais il nous est demandé encore plus de sérieux devant l'Éternel, qui connaît les cœurs, qui voit tout, et qui aussi, Dieu, on doit le respecter. Donc quand nous sommes face à lui, nous devons dire des choses sérieuses, nous devons être sérieux dans notre fonctionnement. Et les paroles, c'est ça qui montre le sérieux de quelqu'un. Et l'exemple des vœux nous est donné. Vous savez, on a un événement important dans les Actes des Apôtres. Des gens qui sont venus donner de l'argent en disant c'est l'argent qu'on a gagné, enfin que de la vente de notre maison. Qu'est-ce qui s'en est suivi? Ils sont morts, femmes et hommes, parce qu'ils avaient menti. C'était une partie. Mais quand eux, ils viennent donner, ils s'expriment comme si c'était la totalité. C'est là que Pierre leur dit, m'attendez. Est-ce que quelqu'un vous a demandé de vendre votre maison? Ben non. C'est votre maison. Vous êtes libre de donner le montant que vous voulez. Pourquoi venir dans la présence de Dieu et mentir? Et Pierre leur dit, mais attention, c'est pas parce que c'est moi, Pierre, qui peut-être recevais l'argent que vous devez prendre les choses à la légère. C'est devant Dieu. Il a dit, mais en faisant ça, vous avez menti à l'Esprit de Dieu. Vous avez menti à Dieu. Bien-aimé, que tout ça nous parle. La Bible est cohérente et les passages se complètent. Là, l'avertissement est là. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Ces gens-là pouvaient tout simplement venir dire, voici notre contribution. C'est tout. Mais voulant paraître bon, voulant paraître juste, voulant montrer qu'ils sont plus attachés à Dieu que peut-être un autre, ils ont dit une phrase qui les a entraînés à la mort parce qu'ils ont parlé devant Dieu. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Dieu, c'est un feu dévorant, nous disent les Écritures. C'est un feu dévorant. Donc quand tu viens comme en mensonge, en opposition, ça peut te consumer. C'est ce qui est arrivé à Ananias et Saphira. Alors qu'ils n'étaient pas obligés. Mais c'est le manque de respect pour Dieu. Je ne dis pas qu'ils ont résolu de manquer de respect à Dieu. Mais ce que nous pensons être des erreurs légères, ça peut être considéré comme un vrai affront pour Dieu. Le fait que tu viennes dire un mensonge comme un sacrifice, comme offrande. Nous avons vu ça aussi dans Proverbe 15:33, je crois on peut vérifier, Proverbe 15:33. Prenons Dieu au sérieux, bien-aimé. Non, ce n'est pas Proverbe 15:33. On dit que la prière de l'injuste est une abomination devant Dieu. Mais ce n'est pas grave, on va retrouver ça en chemin. Mais il y a un verset qui dit que la prière des hommes droits est agréable à Dieu. Mais verset combien? Proverbe 15:8.
Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable.
Le sacrifice des méchants est en horreur devant l'Éternel. Donc quelqu'un qui est parti voler, il a gagné de l'argent et il veut jouer le saint dans l'assemblée en donnant. Alors que le problème, pourquoi c'est en horreur devant Dieu? Parce que Dieu a vu quand il a volé. Au fait, pour Dieu, c'est se moquer doublement de lui. Donc, c'est le prendre pour quelqu'un qui ne voit pas. Et deuxièmement, c'est lui apporter le résultat du péché. Ça lui fait doublement mal. C'est cela, bien-aimé, lorsque nous sommes en communion, lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, bien-aimé, prenons les choses au sérieux. Ne blaguons pas avec cela. Ne blaguons pas avec cela. Vous vous souvenez quand Moïse a eu la vision du buisson ardent? Qu'est-ce qu'on lui a dit? Ôte tes chaussures parce que tu es dans un lieu saint. Ce n'est pas parce qu'il y a le frère Jean, le frère Germain, la sœur Nathalie, ceci. Attention, nous nous réunissons auprès de Dieu, autour de Dieu, et Dieu est présent. Il faut regarder à Dieu. Ne soyons pas distraits dans sa présence. Regardons en lui, prions le Seigneur, concentrons-nous sur lui, sinon nous allons dire des choses à la légère, dans le cadre de l'ambiance globale, et regretter plus tard. C'était cette ambiance-là qui a conduit Ananias et Saphira, puisque tout le monde venait avec tout ce qu'il avait reçu comme contrepartie de la vente. Et aussi dans cette ambiance-là, ils disent, mais bon, nous aussi on va donner de la même manière, mais sauf qu'eux, ils ont menti. C'était pas tout. Vous voyez, donc suivre le mouvement et dire des choses, chanter, voilà. Je te donne mon cœur, mais toi tu ne donnes pas, mais tu le dis. Mais tu as des problèmes avec Dieu après. Donc soyons sérieux, c'est ce que ce passage veut nous faire comprendre devant la présence de Dieu. Eh bien, soyons sérieux, sinon il nous appelle insensés, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Comme les rêves viennent souvent de la multitude des occupations. Voilà. Verset 6, car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu, bien-aimés, respectons le Seigneur. Quand il s'agit de parler de lui, quand il s'agit de communier autour de lui avec les frères et sœurs, c'est le Seigneur qui est au centre. Respectons le Seigneur, oublions les humains et respectons le Seigneur. Ne nous laissons pas distraire par les humains. Regardons au Seigneur. Nous continuons.
Verset 7. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne point, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé, et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. Un avantage pour le pays à tous égards, c'est un roi honoré du pays.
Voilà, nous en avions déjà parlé de l'oppression, de la souffrance des humains sur terre à cause d'un dictateur qui serait au pouvoir, à cause des mauvais parents, à cause d'un mauvais enseignant, dans un mauvais quartier. Les gens souffrent à cause des chefs d'entreprise, à cause de toutes sortes de mal qui sévit sur la terre. Nous en avons déjà parlé dans le chapitre précédent. Là, c'est redit encore. Mais il y a quelque chose qui est rajouté. C'est le fait que Dieu contrôle quand même. Il est dit, voilà, c'est vrai, il y a la souffrance, mais un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé. Et au-dessus de, il en est de plus élevé encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les gens qui font du mal vont rendre compte d'une manière ou d'une autre à une instance beaucoup plus élevée. Et même celui qui paraît n'avoir personne, on nous dit, il a quand même quelqu'un, c'est Dieu. Nous avons vu Sarkozy quand il a quitté la présidence. Il est accroché par beaucoup de procès. Il est passé par plusieurs procès là. Tu rendras compte un jour ou l'autre. Même si sur la terre, ça paraît que tu ne rends pas compte, il y a quelqu'un encore de plus élevé. C'est Dieu lui-même. C'est pour nous dire ceci. C'est écrit, hein. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne point. La terre est une terre d'injustice. Est une terre de péché. ne soyons pas étonnés. Parce que vous savez, beaucoup ont baissé dans leur foi à cause de la vue des mauvaises choses. Ils se disent, mais comment Dieu laisse faire? Dieu nous dit, c'est lié à la présence du péché sur terre. Ce n'est pas de sa faute. La preuve, lui, il a prévu un endroit où il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de cris. Tout sera paisible, tout sera bonheur, joie et paix. Il n'en veut pas. Vous savez, Dieu a refusé à David de construire son temple parce qu'il avait fait beaucoup de guerres. Il ne veut pas de la violence, Dieu. C'est la personne qui n'en veut surtout pas, c'est lui. Mais même lui subit les conséquences de notre péché à nous. Même lui. Parce que ça l'a conduit à donner son propre fils. Jésus dit ceci. Si on fait ceci au bois vert, que fera-t-on au bois sec? Si lui, Jésus, qui est le bois vert, est passé par des souffrances horribles, par des rejets, par des critiques, jusqu'à mourir comme un esclave, comme un bandit à la croix, bien-aimé, qui pense être épargné des difficultés terrestres? Il est dit, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit, ne t'étonnons pas. Ne nous étonnons pas qu'il y ait le malheur sur terre. C'est dû au péché qui est sur terre. Et parfois, ces malheurs sont causés par les humains eux-mêmes, comme la pensée du jour que nous avons envoyée aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu es honnête, qui va te voter? Puisque tu vas dire les choses clairement, tu vas être sérieux. Qui va te voter? Mais quand tu es malhonnête, tu manipules par tes paroles, par des fausses promesses, c'est toi qui es voté. La faute, c'est à qui? La faute, c'est à nous-mêmes. Nous fonctionnons selon nos intérêts. Or, là où il y a intérêt, il y a possibilité d'être trompé, puisque l'intérêt, c'est de la convoitise. Là où il y a la convoitise, il y a souvent la baisse de la garde, puisque la convoitise nous attire et on baisse la garde. Donc ça nous amène à les convoitises, les intérêts, ça nous amène à être trompé par quelqu'un de plus malin. Mais lorsqu'on est vrai, pur et sincère, personne ne peut nous tromper parce que nous n'avons pas d'intérêt. Notre intérêt à nous, c'est Dieu seulement, c'est la vérité. Et c'est ce que Jésus dit, mais quand moi je viens de Dieu, vous ne voulez pas, parce qu'en vous, il n'y a pas les bonnes intentions. Mais quand quelqu'un va venir dans le cadre personnel de sa propre initiative, ben, il viendra avec des armes pour vous mentir, pour vous manipuler. Là, vous allez suivre parce qu'il va vous miroiter des intérêts. Il va aller dans le sens de vos intérêts, en vous mentant, bien sûr. Moi, je viens vous dire la vérité de la part de Dieu. Vous refusez. Donc, le malheur est sur terre à cause de l'homme lui-même. Ça choque parfois. Ça choque. Je n'en dis qu'on ne vient pas quand nous suivons les faits divers. Ça choque. Comme nous avons souvent l'habitude de dire, heureusement que nous ne sommes pas Dieu. Parce que si nous étions Dieu, nous réagirions tout de suite pour aller faire justice, frapper ceci, emprisonner un tel, tuer un tel même. Mais Dieu seul est Dieu. Lui sait comment il fait. Et il nous promet que c'est sous contrôle. C'est sous contrôle. Les méchants seront jugés. Il y a des gens au-dessus d'eux. Des gens, nous voyons cela sur terre, mais jusque dans l'éternité, jusqu'en entrant dans l'éternité, il y aura un grand jugement. Personne n'y échappera de tous ceux qui commettent l'injustice, qui font souffrir les autres. Donc, c'est normal qu'il y ait la souffrance sur terre. Remettons-nous-en à Dieu lui-même. Ce n'est pas parce que les choses sont mauvaises que Dieu n'est pas au contrôle. Dieu reste au contrôle. Je parlais à un frère tout à l'heure, j'ai dit, Dieu est au contrôle. Mais il nous demande d'accepter sa gouvernance. Que nous acceptions ou pas, il restera au contrôle. Mais son contrôle nous sera préjudiciable. Si nous voulons que son contrôle nous soit bénéfique, mettons-nous sous son contrôle. Résister, faire comme nous voulons, nous n'allons pas échapper à Dieu. Parce qu'il contrôle quand même malgré tout. Mais, dans ce cas-là, son contrôle sera une douleur pour nous. Ce sera un jugement pour nous. Vous savez, bien-aimé, est-ce que le fait qu'il y ait un bandit en France, ça veut dire que la France a perdu contre ce bandit, non? Le bandit semble libre. Mais un jour, il va être arrêté. L'État ne perd pas, nous l'avons vu dans plusieurs cas, les Jacques Mesrine. Dans les années 70, l'État finit par le rattraper. À combien plus forte raison la justice divine? Non, il est au contrôle, mais vaut mieux se mettre sous son contrôle pour que ce contrôle soit comme, vous savez, le courant de l'eau qui va dans le même sens que le bateau. Mais si tu refuses, donc tu es dans le sens contraire, son contrôle te sera un problème. Ça sera préjudiciable pour toi. Nous continuons. Verset 9.
Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité.
C'est là encore une vanité. Donc tu aimes l'argent, mais tu n'es toujours pas satisfait. Quand on vous explique l'argent que Bill Gates a et comment il continue à en avoir encore, vous dites, mais il cherche quoi? C'est ça. Vanité de vanité, il n'est quand même pas tranquille, il n'est quand même pas satisfait. Hier, on m'a envoyé une vidéo qui expliquait comment il continue à s'enrichir sur le dos des humains. Mais vous dites, mais il cherche quoi? Il veut atteindre 1000 milliards, mais oui, mais... Vous savez, quelqu'un, ils avaient dit que si tu travaillais depuis 1789, depuis la Révolution française, hein, depuis 1789, jusqu'aujourd'hui, en gagnant 10 000 euros par mois, tu ne rattraperas quand même pas Bill Gates dans sa richesse. Parce que vous vous rendez compte, depuis 1789, tu travailles et tu gagnes 10 000 euros par mois, tu ne le rattrapes pas. Bon, ça sert à quoi tout ça? Sachant que lui, il vivra, il ne dépassera pas 100 ans. C'est ça la vanité. Vanité, il n'y a jamais de satiété. L'homme va toujours continuer à courir après l'argent, courir après la richesse, c'est écrit, il n'en profite pas, c'est encore là une vanité. Verset 10.
Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir.
Voilà. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu es riche, que tu le veuilles ou pas, il y aura beaucoup de personnes qui devront partager ta richesse d'une manière ou d'une autre. Tu es riche, tu auras besoin de garde du corps. Tu es riche, tu vas aller manger dans un restaurant. Tu es riche, tu vas payer la première classe pour voyager. Donc tu auras des rubriques de dépenses qui vont faire que, tu le veuilles ou pas, beaucoup de gens vont abonder dans le profit de ta richesse. Ils vont en profiter. Toi, tu n'auras qu'à voir comment ils en profitent. Comment ton chauffeur, il a un bon salaire. Tu vas voir ça. Tu vas voir. Et c'est ce qu'il est dit là. Et quel avantage en revient-il à son possesseur? Sinon qu'il le voit de ses yeux. Tu vois seulement les gens profiter. C'est ta richesse, c'est cette fierté-là. Et puis, le fait que ton compte soit rempli, tu le vois. Mais en réalité, toi-même, tu ne peux pas manger 10 poulets. Quand toi, tu fais un repas, tu vas faire un repas conséquent, mais toi, tu mangeras peut-être que 5% de ce repas-là, ou bien 1%. Donc, tu vois ta richesse, c'est ça l'avantage, mais tu ne peux pas réellement en profiter. C'est ça la réalité. D'où, donc, vanité. Vanité des vanités. Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir, le riche met les alarmes. Il a peur d'un enlèvement, d'un kidnapping sur son chemin. Il n'est pas tranquille. Il se croit en danger. Mais celui qui travaille simplement, il est bien avec peu et il dort tranquillement. Cherchons ce bonheur-là. Les biens matériels n'assurent rien. Nous sommes en train de lire. Ben, le sommeil du travailleur est doux. Il est tranquille. Il ne se sent pas menacé. Il sait qu'il gagne de son petit travail qu'il fait, mais le riche, il est rassasié, mais il a peur qu'on lui vole ce rassasiement-là. Comme un chef d'entreprise a dit, je crois que c'est Bernard Tapie, il a dit, mais dès que tu fais de gros bénéfices, tu deviens malheureux, parce que tu sais que ça ne durera pas. Tu as peur maintenant que ça baisse, mais tu sais que c'est inévitable. C'est ça là, le sort des riches, verset 12.
Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Ces richesses se perdent par quelque événement fâcheux. Il a engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, il n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu, et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? De plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres, et il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation.
Voilà la vie de la plupart des riches. Attention, ce n'est pas un pauvre qui écrit, hein. C'est quelqu'un qui était plus riche que tous les riches dont lui il parle. Il connaît, il sait de quoi il parle, Salomon. Il sait de quoi il parle. Il sait, il connaît la maladie des riches, puisque lui-même il était riche. Il connaît les difficultés des riches, puisque lui-même il était super riche. Il le dit, mais finalement, tu produis beaucoup de choses, et puis il y a un accident qui va tout enlever. Il y a une guerre qui va tout enlever. Un tremblement de terre qui va enlever. Et il y a un fils, un enfant qui va venir tout gaspiller. Voilà, c'est ça. La réalité, et finalement, tu rentres. Même admettons que tu aies gardé tout, mais dans le tombeau, tout est pris. Tu ne gardes pour rien. Tu rentres comme tu es venu du ventre de ta mère, exactement pareil. Il dit, c'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu, verset 15. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? Salomon dit, mais finalement, c'est du vent. C'est la fin qui montre la valeur des choses. Quand tu finis dans un cercueil, ça montre que les milliards que tu as amassés n'ont pas de valeur. Mais quand tu pouvais t'acheter un avion, t'acheter un jet privé, un yacht, tout ça, ça donnait l'impression que ton argent a une puissance. Mais quand tu te retrouves cancer, phase terminale, et qu'aucun médicament ne peut faire quelque chose, t'as beau être Bob Marley, Steve Jobs, cette popularité, les millions, Maradona, tout ça, ça ne peut rien faire. C'est là que tu te rends compte que les millions ne sont rien. C'est la durée des choses qui montre la valeur des choses. C'est la fin qui montre la valeur des choses. Et c'est là qu'à la fin, on se rend compte, pour ceux qui ont cru en Dieu, « Oh, j'ai fait le bon choix. Je vois des anges venir me chercher pour m'amener dans le lieu de félicité. » C'est à la fin qu'on sait la valeur des choses. Dans l'intervalle, oh, on peut sauter, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est la fin qui montrera si on a fait un bon choix ou pas. Et il est dit, finalement, toute sa vie, il mange dans les ténèbres et il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation. Parce qu'il regarde tout le temps la bourse. Comment la bourse évolue. Il regarde le compte. Vous savez, beaucoup de riches ont quelle maladie? La tension, l'estomac. À cause de quoi? L'inquiétude de perdre. L'inquiétude que ça baisse. À cause de quoi? Comme la publicité de Vegas nous montre à la télé, son voisin riche a acheté une limousine de 15 mètres. Lui, il veut maintenant de 20 mètres. Le voisin achète une limousine de 25 mètres. Mais c'est ça, la concurrence. Ça détruit. Il y a des gens qui changent de yacht tous les ans ou tous les deux ans, puisque son ami riche en a acheté un autre, lui, il faut un plus grand, et ainsi de suite. Donc c'est une vie de ténèbres, c'est une vie difficile. Alors que le pauvre est tranquille, avec son fromage, son pain, chocolat chaud, il est bien, il dort paisiblement. Il sait que chaque jour, il a ce dont il a besoin. Bien-aimés, réfléchissons à tout ce que Salomon est en train de dire. Cherchons le meilleur, cherchons Dieu. C'est ça qui est bien. Pourquoi une vie de ténèbres, une vie difficile? Et quand ça baisse, nous on voit des gens, parfois nous prenons l'avion, quelqu'un qui était habitué à première classe, il se retrouve en classe économique. Un ancien PDG, un ancien ministre. Et les gens font exprès pour lui dire bonjour. Quand il est en classe économique, les gens qui ne lui disaient pas bonjour autrefois, ils veulent lui dire, oh, mais tu te retrouves au milieu de nous. Bonjour, votre excellence. Mais c'est fait exprès pour se moquer, ironiquement. Parce que tu es en troisième classe. Ces gens-là ont envie de mettre une barbe postiche pour se cacher. C'est ça la vie des riches. Et d'où ils sont prêts parfois à tuer pour rester en haut. Parce qu'ils se sont habitués. C'est une vie difficile. La vie avec le Seigneur, c'est la belle vie. Nous continuons.
Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose belle et bonne et belle de manger et de boire et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie, parce que Dieu répand la joie dans son cœur.
Voilà, nous avons déjà dit ça au chapitre 4. C'est un appel à se réjouir du présent. Voilà. Pas commettre l'erreur de maîtriser l'avenir et sa vie. Ça t'échappera. Nous avons dit, en introduction au livre d'Ecclésiaste, c'est un livre qui nous apprend qu'il n'y a pas de maîtrise. Les choses nous échappent. Donc tous ceux qui s'emploient à vouloir maîtriser se retrouvent dans la difficulté. Il nous est conseillé de jouir de ce que Dieu nous donne au jour le jour, d'en être heureux, de vivre et non de chercher à maîtriser. C'est notre part que tu manges un bon repas, c'est ta part. Réjouis-toi, c'est le don de Dieu. C'est ce qui est écrit, c'est le don de Dieu. Réjouissons-nous dans le présent, mais ne cherchons pas à maîtriser les affaires. Ça nous rendra tristes, ça nous perturbera. Voilà. Exerçons notre joie en recevant ce que Dieu nous donne chaque jour. Voilà ce qu'il nous est demandé de faire. Dans tous les cas, personne, après 20 ans, il se souviendra avec la même force de comme quand il vivait la chose, de tous les bonheurs qu'il, il vivait. Ça part, ça reste un souvenir, mais sans impact. Sans impact. C'est le présent qui est concret. Donc, réjouissons-nous dans le présent, concrètement, comme étant un cadeau de Dieu de tous les jours. Voilà. C'est cela.
Il est un mal que j'ai vu sous le soleil et qui est fréquent parmi les hommes. Il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens et de la gloire, et qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire, mais que Dieu ne le laisse pas mettre d'en jouir, car c'est un étranger qui en jouira. C'est là une vanité et un mal grave.
C'est là une vanité et un mal grave, voilà. Mais que Dieu ne laisse pas mettre en jouir, car c'est un étranger finalement qui en jouira. C'est là une vanité, un mal grave. Nous avons donné des exemples de parents qui ont souffert pendant des années pour amasser une fortune, faire une entreprise qui tient la route. Et ils n'ont pas profité de la vie, ils ont cherché l'argent, bâtir. Et quand le fils vient, c'est lui qui profite de tout. C'est un étranger en quelque sorte qui vient profiter de cela. Et ça fait mal, mais c'est la conséquence de ne pas s'abandonner à Dieu. Donc, il y a tous ces cas-là que nous pouvons voir dans la vie, des gens qui ont bossé, qui ont travaillé. Et il y en a même parfois qui meurent pendant l'exercice de ce qui a produit leur richesse. Et quand ils meurent, c'est la guerre des héritiers. Et quand ces héritiers-là se partagent la fortune du défunt, eh bien, ils dilapident. Finalement, le monsieur qui a amassé, lui-même n'en a pas profité. Nous avions parlé récemment de certaines personnes qui se promettaient que dès qu'ils allaient prendre leur retraite, ça va être le voyage autour du monde. Ça va être tel projet, ainsi de suite. Et dès qu'ils prennent la retraite, cancer du foie, cancer de ceci, crise cardiaque, et finalement, tout ce qu'ils ont bâti pendant ce temps-là, ils pensaient en jouir, mais c'est d'autres personnes qui vont en jouir. Et nous avons vu beaucoup de dictateurs africains qui ont amassé de l'argent en Suisse, mais le jour où ils sont chassés du pouvoir, quand ils vont réclamer cet argent, les Suisses, ils ferment la porte, alors que c'est leur argent. Ils disent que c'est de l'argent volé, mais c'est vous qui avez accepté ça. Et finalement, c'est des étrangers qui en jouissent. C'est les Suisses, les Luxembourgeois, donc ça s'appelle quoi, là où on blanchit l'argent, là où les paradis fiscaux, ben c'est dans ces paradis fiscaux-là, les gens vont en profiter, puisque tu n'es plus président, tu ne fais plus peur à personne. Les avocats vont profiter. Finalement, c'est les étrangers qui profitent de tout ce que tu as amassé. Ça nous ramène à quoi? Vanité, les vanités. Faut prendre Dieu seul au sérieux. Verset 3.
Quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours de ses années se multiplieraient, si son âme ne s'est pas rassasiée de bonheur, et si de plus, il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Car il est venu en vain, il s'en va dans les ténèbres, et son nom reste couvert de ténèbres. Il n'a point vu, il n'a point connu le soleil, et il a plus de repos que cet homme. Et quand celui-ci vivrait 2 fois 1000 ans, sans jouir du bonheur, tout ne va-t-il pas dans un même lieu?
Voilà. Il dit, le bébé qui a avorté, qui meurt, fausse couche, mais il n'a pas vu le soleil, il n'a pas connu tout ce que va vivre un homme qui a 100 fils, mais avec une vie malheureuse. 100 fils, même s'il vivait 2000 ans, ça sert à quoi? Dit Salomon. Donc c'est une vie difficile, car il est venu, et quand celui-ci vivrait 2 fois 1000 ans sans jouir du bonheur, tout ne va-t-il pas dans un même lieu? Nous connaissons même certains qui veulent à tout prix se marier et puis ils vont vivre 30 ans, 40 ans de souffrance. Mais à quoi ça sert? Juste pour l'honneur? Non, quand nous devons prendre des voies, c'est pour le bonheur. Il nous est dit que quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années et que les jours de ses années se multiplieraient si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur. Mais finalement, ça nous concerne nous tous, puisque qui va vraiment se rassasier humainement du bonheur? Personne, parce qu'il y aura toujours, comme nous l'avions dit précédemment, il y aura toujours des choses négatives qui vont ôter le peu de joie que tu es en train de retirer d'une chose. Il y a des choses négatives qui vont enlever ça. La crainte d'une guerre, la crainte d'une crise, ceci, cela, une mauvaise sensation dans le corps. Il y a toujours ça qui va enlever. Donc le vrai bonheur ne vient pas de ce que l'homme possède, de ce qu'il a comme nombre d'années. Le vrai bonheur vient de son rattachement à Dieu. C'est Dieu qui, étant éternel dans le bonheur, étant éternel dans la paix, éternel dans la... C'est ce branchement à Dieu qui fait le vrai bonheur parce qu'il est éternel. Un bonheur qui dure que peu n'est pas du vrai bonheur. Mais le vrai bonheur, c'est le rattachement à Dieu. Donc tout ce que nous critiquons là, c'est lié au fait que l'homme le prend en soi-même. Donc s'il veut prendre le nombre d'années comme une forme de richesse, ce n'est pas du vrai bonheur. Prenez l'exemple des gens qui ont vécu la guerre 14-18. Certains ont vécu en plus la guerre 40-45. Même si tu vis 100 ans, vivre ces années-là, c'est horrible. La guerre, c'est horrible. L'Ecclésiaste dit, mais finalement, tout ça n'est pas supérieur à un bébé avorté qui, lui, n'a pas connu tous ces malheurs-là. Toi, tu peux te vanter d'avoir vu le soleil, mais à côté, c'est quoi? À côté, c'est quoi? Tant de déceptions, tant d'insatisfactions. Pas de satisfaction, pas de rassasiement. Il n'y a pas. Même pour les justes, si nous prenons que le côté matériel, il n'y a pas de rassasiement. Mais c'est quand nous prenons le côté branchement. Oh, là, il y a le rassasiement, la satiété. Même en prison, tu es bien parce que tu es branché à l'éternité. On nous a dit qu'il y a des chrétiennes qui avaient été à l'époque de l'URSS, l'Union soviétique, en hiver, s'il vous plaît, en hiver. On les a sortis de la prison pour les mettre dans la cour de la prison en hiver, sans vêtements. Mais elles chantaient, elles louaient et glorifiaient Dieu. C'est ça le juste. Il est branché à quelque chose qui dépasse le matériel. C'est ce que nous devons rechercher, bien-aimés. C'est une erreur de chercher la satisfaction par les biens matériels, par la réussite sociale, la réussite, nombre d'enfants, ceci, cela, non. C'est le branchement à Dieu. Comment des gens qui sont sans vêtements, en hiver, je ne parle pas de notre hiver ici de 4 degrés, je parle de l'hiver de moins 10, moins 12 degrés en Russie. Et là même, je suis gentil, je préfère supposer ça. Mais elles sont en train de chanter Dieu. Voilà. C'est ce branchement-là que nous devons désirer, nous tous, chaque jour. Nous ne devons pas attendre que ce soit l'hiver pour désirer ça, tout le temps. De sorte que rien ne te dégoûte plus. Rien ne te dégoûte. Tout est bon puisque Dieu est là. Voilà. C'est le niveau que nous devons atteindre tous les jours.
Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et cependant ses désirs ne sont jamais satisfaits. Car quel avantage le sage a-t-il sur l'insensé ? Quel avantage a le malheureux qui sait se conduire en présence des vivants ? Ce que les yeux voient est préférable à l'agitation des désirs. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Ce qui existe a déjà été appelé par son nom. Et l'on sait que celui qui est homme ne peut contester avec un plus fort que lui. S'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vanité. Quel avantage en revient-il à l'homme ? Car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie pendant le nombre des jours de sa vie de vanité, qu'il passe comme une ombre ? Et qui peut dire à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil ?
Voilà, qui peut rassurer un homme que sa maison sera toujours sur pied ? Qui peut rassurer ? Tu peux bâtir un château, qui peut te rassurer que après ta mort, ça continuera ? Qui peut dire exactement ce qui est bon pour quelqu'un ? Vous savez combien de choses nous ont-ils été diagnostiquées dues à des choses qu'on trouvait positives à un moment donné. Il y a des gens, on dit, ah ben oui, mais c'est ta taille, hein, c'est pourquoi tu as des problèmes au genou. Mais pourtant, cette taille-là était comme un sujet de force autrefois. Ça servait à jouer au basket. Mais un jour, on te dira, ben c'est ta taille hein, qui fait que tu as des problèmes de genou. Un jour, on te dira, eh ben il n'y a pas de pantalon pour ta taille. Ah, c'est là que on en revient à ce que dit Salomon. Mais finalement, qui peut dire qu'est-ce qui est bon pour l'homme ? Verset 12, car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie ? Un jour, on te dira, ah ben tu t'appelles... Jeannot, eh ben, à cause de ça, c'est pourquoi tu n'as pas eu ce travail-là. Parce que ton père avait manqué de respect à un tel. Pourtant, autrefois, c'était ta force. Nous ne savons pas ce qui est exactement bon, puisqu'un jour, on te dira ta maladie vient de ce que tu trouvais bon autrefois. Il n'y a pas d'assurance. Il n'y a pas de maîtrise. C'est ce que le frère dit, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses sur la terre. Les vêtements, le soleil, les plages, les crevettes, les bateaux, Rolls-Royce. Il y a beaucoup de choses. Mais parmi ces choses, il y a aussi beaucoup de vanité, beaucoup d'inutilité. Tout est vanité finalement. Verset 10. D'ailleurs, ce qui existe a déjà été appelé par son nom. C'est-à-dire que quand tu crois que c'est toi qui as atteint les sommets, sache qu'il y a déjà des gens qui ont vécu ça. Il y a des gens qui ont vécu la richesse plus que toi. Il y a des gens qui ont manifesté de la beauté plus que toi. Il y a toujours des gens qui ont vécu ça et qui sont... Le but de dire ça, c'est quoi ? C'est-à-dire que mais ces gens-là qui ont vécu ça avant toi sont passés. La mode qu'il y avait avant toi, c'est passé. Donc tu n'es pas spécial. Il y a eu des gens avant toi, mais ils sont passés. Donc ne t'accroche pas à quelque chose que tu fais comme étant une sorte de force. Parce qu'il y a des gens qui ont eu ça avant toi, mais ils sont passés. C'est ce que ça veut dire. Tout le travail de l'homme est pour sa bouche et cependant ses désirs ne sont jamais satisfaits. Voilà, verset 7. Car quel avantage le sage a-t-il sur l'insensé ? Finalement, ils meurent tous. Ils ont le même sort. Donc la sagesse circonscrite à l'homme ne suffit pas à donner le bonheur. Parce que finalement, le sage et l'insensé, mais ils meurent tous. Pareil. Parfois des insensés sont morts à 85 ans, à 90 ans. Mais le sage, parce qu'il a été sage, il a dit des phrases qui ont fâché le président, qu'il a enfermé en prison, puis l'a tué. Voilà. C'est ça la réalité de la vie. Tout est vanité. Donc même ce qui paraît beau, bien, la sagesse, eh bien voilà, ça peut t'entraîner en prison, puisque tu es honnête, tu es sage. Donc, même ce qui est juste, n'a de sens, n'a de gloire, de force que branché à Dieu. En soi-même, ça n'a pas, si on limite ça au genre humain, c'est une vanité. Ça n'a de sens que lorsque il y a le branchement à Dieu. C'est ce que nous devons rechercher. Craindre Dieu, c'est ça notre thème d'aujourd'hui. Craindre Dieu avant tout. Laisser sa vie sous son contrôle, c'est ça qui compte. Tout le reste, bien-aimé, n'est que vanité. Quand on laisse sa vie sous le contrôle de Dieu, nous allons expérimenter des joies qu'aucun bien matériel ne peut donner. Nous allons expérimenter une assurance, l'assurance des amis de Daniel, qui disent, bon, nous n'allons pas nous prosterner devant cette statue qui t'a entré dans le feu. Voilà. Notre Dieu est avec nous. Ah, ça c'est extraordinaire. Mais notre Dieu est avec nous. Pourquoi je résume ainsi? Parce qu'eux, ils ont dit, notre Dieu nous délivrera. Mais même s'il ne le fait pas, sinon, roi, nous n'allons quand même pas adorer ton Dieu. En résumé, ça veut dire quoi? Notre Dieu est avec nous. Que ce soit dans la mort, que ce soit dans la vie, il est avec nous. Ça nous suffit. Que Dieu nous aide, bien-aimés. C'est ma prière avec larmes. Que Dieu nous aide à nous accrocher plutôt à lui qu'au reste. Au nom de Jésus. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à nous accrocher à toi plutôt qu'au reste. Tout passe. Tout passe. Que nous puissions chercher notre assurance, non pas dans la réussite professionnelle, non pas dans la beauté, non pas dans la réussite matérielle, mais dans ta présence. Ô Seigneur, tu es tout pour nous. Sans toi, nous sommes perdus. Aide-nous à réaliser cela. Et à nous accrocher à toi, à 100%. Aide-nous, Papa, au nom de Jésus. Merci encore pour cet enseignement. Merci pour ton serviteur que tu as inspiré, qui a fait ses écrits par le Saint-Esprit. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Que Dieu nous bénisse.